Tous et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Nous sommes mardi, il est 12h15 tout pile et vous êtes avec Karina, Angèle et Héloïse. Salut les filles.
Coucou.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien pour moi.
Toujours bien.
Vous avez passé un beau week-end?
Ouais. Magnifique.
Bien magnifique.
Dormi. Ah, c'était génial.
Et bien parfait, on y va alors.
Et au sommaire de la locale du mardi 15 février, Angèle, tu nous dis tout?
Ben écoutez, on reçoit aujourd'hui Jérôme Petit. Bonjour Jérôme, du coup.
Bonjour.
Neurologue, épileptologue, excusez-moi, à l'Institut de la TEP de Tain-l'Hermitage à l'occasion de la journée de l'épilepsie. Et on recevra aussi donc Bibiche, Claude Bibiche, Capia, pour l'association Imani qui nous parlera un petit peu de l'émancipation des femmes en Afrique.
Tout de suite, on parle épilepsie. Vous l'avez peut-être remarqué hier soir, plusieurs bâtiments de Valence, comme la gare SNCF ou le centre commercial Victor Hugo, se sont illuminés de violet. Un geste en soutien à l'association Épilepsie France, qui mène une campagne de communication sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard. Si je ne vous apprends rien en vous disant que ce lundi 14 février, c'était la Saint-Valentin, vous ignorez peut-être que c'était également la journée internationale de l'épilepsie. Si vous l'avez raté, pas de panique, car le docteur Jérôme Petit, neurologue et épileptologue au sein de l'Institut de la TEP à Tain-l'Hermitage, se trouve avec nous en studio pour nous parler de cette maladie qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Bonjour Jérôme Petit, comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour, très bien, je vous remercie de m'avoir invité.
Merci à vous d'être venu. Alors dites-nous, la TEP, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne?
Alors, la TEP, c'est un vieil établissement puisqu'il a été fondé en 1856 par le comte Louis de Larnage, qui était un notable local, qui a laissé une bonne partie de sa fortune à s'intéresser à des patients qui étaient à l'époque, au 19e siècle, assez... abandonné, où l'épilepsie était encore synonyme de folie. Donc, ils étaient rassemblés sous une forme asilaire. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Ensuite, on a pu faire la différence entre la neurologie et la psychiatrie, notamment l'épilepsie, et accueillir au fur et à mesure des médecins spécialisés. Et l'établissement a évolué comme beaucoup d'institutions, grâce aux religieuses, aux sœurs de la charité, qui ont pris en charge cet établissement jusqu'en 1975, où cet établissement est devenu un établissement laïque et sous forme administrative d'une association loi 1901, qui est actuellement classée comme ce qu'on appelle un ESPIC, un établissement sanitaire privé d'intérêt collectif. Et il accueille sur place environ 500 patients et résidents. Donc c'est un gros établissement qui a comme vocation de faire plusieurs types de soins. Des soins aigus, mais des soins plus chroniques et surtout l'accompagnement de jeunes patients pour les faire rebondir et les aider à s'insérer professionnellement dans un monde adapté, dans un travail adapté ou non. Et en même temps, accueillir sur site des lieux de vie de patients qui ont souvent une épilepsie sévère, mais pas seulement. Donc on essaye de cumuler des compétences multiples grâce à différents professionnels, qu'ils soient infirmiers, éducateurs, qui permettent de donner des regards croisés sur cette maladie qui, vous allez le voir, est complexe.
Parce qu'au sein de la TEP, on retrouve notamment le CLE, c'est ça, le Centre de lutte contre l'épilepsie?
Absolument, ça c'est la partie hospitalière de l'établissement. qui représente environ une centaine de lits, pour lesquels on fait des bilans de l'épilepsie, puisqu'on est équipé avec un plateau technique qui permet des enregistrements vidéo avec des électrodes sur la tête, qui permet d'enregistrer le signal cérébral et de nous aider à soigner ces épilepsies. Certaines personnes viennent pour quelques jours, voire quelques semaines, et d'autres de manière un peu plus longue pour justement les réinsérer. Et toute cette partie s'appelle le CLE, le Centre de lutte contre l'épilepsie, la partie hospitalière. À côté de ça, on a une partie médico-sociale, qui sont plus des lieux de vie.
D'accord, donc les missions et les objectifs, c'est vraiment la réinsertion de ces personnes, de ces patients, c'est ça ?
Oui, la majorité des patients ont un âge autour de 25-28 ans. Leur épilepsie a pu débuter très tôt ou très récemment, mais en tout cas, ils ont tous en commun un problème d'orientation socio-professionnelle. Parce que cette maladie a pu les faucher dans leur élan, à l'école, et ils ont besoin de retrouver aussi d'autres patients qui comprennent leur situation, parce que bien souvent, ils sont isolés et incompris, d'une part la maladie et justement les idées reçues et les difficultés dans le monde de travail qui touchent déjà les jeunes, même quand ils ne sont pas épileptiques. Alors, vous voyez bien, quand il y a une épilepsie surajoutée, les peurs entraînent souvent des blocages et des freins à leur embauche. Et l'idée, c'est de, par cette journée ou cette semaine, c'est de faire comprendre un peu mieux la maladie pour qu'il y ait moins de réticence.
D'accord, très bien. On en reviendra juste un petit peu après, mais pour en revenir du coup à l'actualité très chaude, hier c'était la journée internationale de l'épilepsie, je le répète. Première question, pourquoi avoir choisi la Saint-Valentin ?
Parce que Saint-Valentin, dans l'histoire, aurait soigné des épileptiques, aurait guéri... quelques personnes célèbres à l'époque, ça remonte au 3e siècle. Donc ça a été un repère. Et c'est vrai qu'il est plus connu, comme, surtout à Valence, avec, ici encore plus, comme la fête des amoureux. Mais je pense que c'est un bon signal, justement. Hein. Il y avait une thématique hier de webinaire sur amour et épilepsie. Je pense que ça fait bon ménage.
D'accord, donc vous n'avez pas peur, par exemple, de prendre le risque de reléguer au second plan la journée internationale de l'épilepsie par rapport à cette fête des amoureux, entre guillemets ? Ça peut être un avantage, plutôt ?
On espère, oui, bien sûr.
D'accord, très bien. Donc pour entrer dans le vif du sujet, dites-nous, à peu près en quelques mots simples, entre guillemets, si on peut simplifier, qu'est-ce que c'est l'épilepsie ?
Alors l'épilepsie, c'est une maladie neurologique d'emblée, donc due à un dysfonctionnement cérébral avec, si vous voulez, une hypersynchronisation des neurones, qui sont les petites cellules grises, qui à un moment donné vont fonctionner de manière assez anarchique et brutalement, et qui ne pourront pas être contrôlées par la personne. Donc si vous voulez, c'est un fonctionnement normal qui devient anormal avec cette hyperstimulation qu'on voit d'ailleurs très bien quand on recueille le signal cérébral. Par l'électroencéphalogramme, les électrodes qu'on pose sur la tête, on enregistre ce micro-signal et on voit bien qu'il y a à ce moment-là une sorte de décharge électrique. Je pense que c'est un signe, on utilise beaucoup de métaphores pour dire que c'est comme une éruption volcanique, mais il y a une activité sismique tout le temps quand on a une possibilité d'être épileptique. Et de temps en temps, il y a une éruption, il y a une crise. Cette décharge électrique anormale est souvent brève et va entraîner des signes neurologiques qui sont très variables en fonction de la zone cérébrale qui est touchée. C'est pour ça, mais on va peut-être y revenir, qu'on a différentes formes d'épilepsie. Il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies, parce qu'il y a des symptômes très différents. Et on verra sur celles qui sont plus connues que d'autres.
D'accord. Donc l'épilepsie, par contre, ce n'est pas uniquement des crises, c'est ça ? Il y a d'autres symptômes, par exemple ?
L'épilepsie, il peut avoir ce qu'on appelle les comorbidités. Les gens connaissent bien ce terme maintenant avec le Covid. Ça peut entraîner plein de choses, parce que si les crises se répètent régulièrement, le cerveau va être parasité aussi, et ça peut aussi, on peut avoir aussi des conséquences qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire répercussions sur le raisonnement, sur le fonctionnement global du cerveau, parce que cette zone est souvent sollicitée et parasite, si vous voulez, le reste du cerveau. Donc ça peut donner certaines difficultés de mémorisation, de raisonnement, dans certains cas, quand les crises sont très fréquentes.
D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on diagnostique une épilepsie ?
Alors, l'épilepsie, c'est un diagnostic qu'on appelle clinique, c'est-à-dire c'est sur les symptômes, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on raconte, sur ce qui est rapporté. Et on a des examens dits paracliniques qui vont conforter ou non. Mais il n'y a pas de... notamment l'électroencéphalogramme, l'IRM cérébral qui va chercher s'il y a une lésion qui peut expliquer cela. Mais il n'y a pas de... de signe qu'on appelle pathognomonique, c'est-à-dire spécifique, qui va dire vous êtes épileptique. Ce sont des faisceaux d'arguments qui permettent de poser le diagnostic. C'est pour ça que parfois il est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'épilepsies qui sont sous-diagnostiquées, parce qu'on n'a pas réussi à mettre le doigt dessus, parce que les symptômes n'étaient pas évocateurs et qu'on n'a pas pensé à dresser un neurologue. En revoir, voilà. Il faut avoir l'habitude pour un certain nombre de symptômes qui pourraient passer pour autre chose que de l'épilepsie.
Donc on ne trouve pas un profil type plus affecté, plus confronté à l'épilepsie, par exemple un sexe, un type d'âge, une catégorie sociale.
Au niveau sexe ratio, c'est la même chose pour hommes et femmes. Par contre, en fonction de l'âge, il y a dans la fréquence, il y a deux pics principalement, l'enfance et puis le sujet un peu plus âgé, au-delà de 50 ans, où on a deux pics de fréquence. Alors l'enfance, pourquoi ? Parce qu'il y a toute la période néonatale où il peut avoir une souffrance néonatale, etc. Il y a un certain nombre d'épilepsies qui se révèlent parce que le cerveau est en construction et on peut avoir des épilepsies dites fonctionnelles, c'est-à-dire qui vont durer quelques temps et qui vont s'arrêter d'elles-mêmes ou sous traitement. Et puis la deuxième pique, ça va être plutôt des maladies neurologiques qui vont avoir comme symptôme une épilepsie. Par exemple, un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale va se révéler par une crise d'épilepsie. Mais alors la problématique est plus, j'allais dire, à la lésion qu'aux symptômes d'épilepsie.
D'accord. Et donc, quels sont les risques, pardon, engendrés par l'épilepsie ? C'est donc des risques qui découlent des crises uniquement, ou est-ce qu'il peut y en avoir d'autres ?
Déjà, les crises, il y a une certaine inégalité en fonction des types de crises. Hein. Il y a des crises qui sont plus dangereuses que d'autres. Il y a des crises dont on peut chuter. Donc, si le patient, le plus souvent, ne sent pas venir sa crise, il peut se cogner la tête, voire faire un hématome intracérébral, ces dangers-là. Si les crises surviennent essentiellement la nuit, il peut avoir aussi des risques de crises nocturnes qui peuvent être graves. C'est surtout, comme je disais tout à l'heure, la répétition des crises qui peut entraîner d'autres problématiques, notamment cognitives, dans certains cas psychologiques, voire psychiatriques. Mais ça, tout dépend de chaque cas. Je ne pense pas qu'on puisse faire trop de généralité. Après, il faut connaître son épilepsie. Il faut justement avoir des échanges avec un neurologue ou un neuropédiatre, ou un pédiatre qui connaît la maladie, pour justement, en fonction de chaque cas, donner des précautions dans la vie quotidienne, où effectivement il y a certains dangers, comme de prendre un bain par exemple, qui n'est pas du tout préconisé quand on est épileptique, utiliser un fer à repasser, ce genre de choses. Donc il y a des dangers domestiques qui sont quand même au devant du tableau, avec des risques de noyade notamment, si on n'est pas encadré. On peut aller à la piscine, mais il faut être encadré, etc. Donc, toutes ces spécificités sont liées au type d'épilepsie, au type de patient, au type de relation avec la famille, etc.
Si nous, qui ne sommes pas épileptiques, ou les auditeurs, auditrices de Radio BLV, sommes témoins de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, quels sont les gestes les plus importants à savoir faire ? Comment réagir ? Et aussi, ce qui est lié, comment savoir s'il s'agit bien d'une crise d'épilepsie, parce que ça ne se reconnaît peut-être pas forcément.
Absolument. Alors, je ne sais pas si on l'aborde maintenant, mais il y a différents types de crises. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut reconnaître que c'est une crise d'épilepsie, ce n'est pas évident. Celle qui est la plus connue, c'est la crise dite généralisée tonico-clonique, qui est un mot un peu compliqué, qui veut dire qu'il y a une phase de raideur tonique et clonique avec des secousses des bras, des jambes, ce que tout le monde connaît, c'est celle qui fait peur. On ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que... Voilà, donc ces patients-là, il faut, s'ils sont debout et qu'on peut les accompagner et les empêcher de se blesser en tombant, on peut le faire. Après, quand ils sont par terre, il faut attendre que les mouvements s'arrêtent et mettre le patient en position latérale de sécurité, en PLS, hein, parce qu'il peut avoir des réactions de vomissement, il ne peut pas que le patient s'étouffe. Hein. Il faut donc le mettre de côté, attendre que ça se passe, ne pas paniquer. Surtout, ne rien mettre dans la bouche, ne pas mettre de cuillère, de doigts, ni quoi ni qu'est-ce, parce qu'il y a toujours cette vieille idée qui perdit, qu'on avale sa langue, on n'avale jamais sa langue. Cette impression qu'on avale sa langue fait qu'il y a souvent un blocage respiratoire dû à la contraction des muscles de la gorge et aussi l'atteinte du tronc cérébral, enfin, pour faire simple, c'est-à-dire qu'il y a un blocage de la respiration qui se fait, mais pas à cause d'un objet qui bloque, mais plus sur le fonctionnement physiologique, si vous voulez, physiopathologique de la crise. Donc, parce que si vous mettez vos doigts, ben, le patient n'est pas conscient, et comme il va serrer souvent les mâchoires, vous risquez de ne plus avoir de doigts. Et si vous mettez une cuillère, ben, vous risquez de casser une dent, et quand le patient va respirer après, il risque d'inhaler un corps étranger, et c'est dangereux. Donc, surtout, ne pas agir contre ça. Et donc, laissez le patient récupérer tranquillement. Essayez de voir s'il est tout seul, s'il a un papier qui stipule qu'il est épileptique ou pas, auquel cas, ce n'est pas forcément la peine d'appeler les urgences, attendre qu'il reprenne conscience, échanger avec lui et de voir ce qui se passe. Évidemment, si le patient se blesse, si les crises s'enchaînent, ça dure trop longtemps, il faudra appeler les pompiers ou le 15 pour ne pas passer à côté d'une hospitalisation nécessaire. Mais beaucoup de personnes épileptiques qui font une crise isolée vous remercieront de ne pas appeler les urgences si vous pouvez converser avec eux après. Après, pour les autres types de crises, c'est bien compliqué de faire le diagnostic d'épilepsie, sauf si le patient a le temps de vous dire ou vous êtes au courant et il aura pu vous décrire les symptômes que vous reconnaîtrez.
Est-ce qu'on sait ce qui déclenche les crises d'épilepsie ?
Alors, il y a la cause. Je vous ai dit, la cause est neurologique. Donc, soit elle est visible par l'IRM à une lésion, etc. Soit on ne voit pas la cause, mais elle existe de manière sous-jacente. Et ça, c'est l'origine, si vous voulez, des crises. Les facteurs déclenchants, ils sont assez connus hein, chez les personnes épileptiques. Ça peut être tout bêtement l'oubli du traitement si les patients sont traités. Donc, c'est forcément, on peut faire des crises. Ça va être le manque de sommeil, l'alcool. Et tous les choses excitantes, ça peut être le cannabis, ça peut être toutes ces drogues. Aussi beaucoup les facteurs psychologiques. Facteurs psychologiques, l'anxiété, l'appréhension va faire que ça peut effectivement déclencher des crises. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est justement traiter une personne qui a une épilepsie, c'est pas uniquement donner des traitements anti-épileptiques, mais c'est aussi prendre en globalité la personne pour comprendre son fonctionnement et l'aider à réduire ses crises, que ce soit par les médicaments ou que ce soit par l'hygiène de vie, ce qu'on appelle, ou la prise en charge psychologique.
Et vous disiez donc qu'il y a différents types d'épilepsie. Alors moi, j'ai trouvé celles qui ont dit structurelles ou symptomatiques et puis celles qu'on dit idiomatique ou fonctionnel, c'est ça ? Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer
idiopathique,
un petit peu ?
Idiopathique ou génétique, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un certain nombre d'épilepsies qui sont génétiques, familiales, qui ne sont pas forcément transmissibles d'une génération à l'autre. Il y a beaucoup d'épilepsies où on a fait beaucoup d'avancées sur la cause, avec certains gènes, effectivement, qui peuvent être soit hérités, si vous voulez, mais ça peut être aussi des mutations, qu'on appelle les mutations de novo, c'est-à-dire qu'au moment de l'embryogenèse, il va y avoir une mutation sur un gène, et malheureusement, ce gène est impliqué dans la circuiterie génétique cérébrale et électrique, et qui va faire que ceci ne fonctionne moins bien, donc l'épilepsie peut arriver. Ça, c'est des causes dites génétiques, qu'on appelait avant idiopathiques. Après, il y a des causes structurelles, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire une lésion cérébrale qui peut être une malformation qui n'a pas parlé jusque-là et ça peut être une malformation vasculaire, ça peut être le cerveau qui a été mal conçu dans l'embryogenèse et qui a une petite dysfonctionnement. Si vous voulez, c'est comme un tableau électrique. Hein. S'il est mal câblé, à un moment donné, il peut avoir un court-circuit, avoir des crises. C'est exactement la même chose. Donc il peut avoir ça, mais il peut avoir des traumatismes crâniens si on sait que dans la tête, ça peut laisser des séquelles neurologiques, j'allais dire classiques, c'est-à-dire un côté qui fonctionne moins bien, etc. Mais ça peut laisser aussi comme séquelles une épilepsie. Donc il y a plein de causes, mais vous avez bien compris, structurelles, c'est-à-dire que la structure est impliquée et un certain nombre d'épilepsies sont dites fonctionnelles parce qu'on n'a pas trouvé de cause structurelle. Mais on sait qu'il y a un dysfonctionnement physiologique sous-jacent qui va être à l'origine des crises.
Quel va être le traitement pour cette maladie donc ?
Alors il y a plusieurs traitements. Donc il y a en premier lieu c'est les traitements, j'allais dire anti-crise, parce qu'il n'y a pas de traitement anti-épileptique. Anti-épileptique, ça voudrait que c'est un traitement qui soignerait l'origine. Alors on peut soigner l'origine autrement, soit par la chirurgie, on peut opérer les épilepsies, on peut traiter aussi avec des stimulations électriques, ça s'appelle le stimulateur du vague. Mais le grand principe c'est le traitement médicamenteux qui va empêcher les crises et qui va essayer de rééquilibrer ce dysfonctionnement électrique en agissant sur certains canaux, qu'on appelle sodiques, potassiques, etc., qui va rééquilibrer cette membrane qui est hyper excitable. Puis d'autres vont jouer sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs en attenuant les flux des neurotransmetteurs excitateurs versus apaisants, si vous voulez. Donc ces médicaments vont chercher à rééquilibrer cela. Donc voilà, donc continue, il y a plusieurs types
oui. Dans 70% des cas, ce traitement fonctionne et
absolument.
Puis les 30% restants sont dits résistants.
Donc il faut laisser qu'il y a quand même un grand espoir, hein. Donc 70% des cas avec un seul médicament, on arrive à stabiliser les choses. Donc c'est quand même bien. Dans certains cas, effectivement, on peut l'arrêter au bout de quelques années. Sous contrôle toujours d'électroencéphalogramme avec un suivi neurologique régulier, ce qui est très important. Mais dans d'autres cas, il va falloir mettre un deuxième antipsychotique, voire un troisième, se poser la question si on peut opérer le patient pour être définitivement débarrassé. Donc un certain nombre d'épilepsies qui s'opèrent avec succès. Et dans 30% des cas, bah, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que malgré beaucoup de traitements essayés, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Donc, il persiste des crises. Donc là, c'est là où, justement, nous, on peut intervenir dans notre institut pour essayer de trouver le meilleur compromis bénéfice-risque des traitements et de leur efficacité et de leur tolérance afin que l'épilepsie soit apaisée le plus possible pour avoir un projet de vie.
D'accord, très bien. Et du coup, j'en parlais un petit peu avant, l'Épilepsie France mène des actions de communication en ce moment pour bien rappeler qu'il est important d'en parler. La campagne s'appelle Parlons-en. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Comment est-ce qu'une maladie dite invisible peut-elle mener à une telle stigmatisation, en fait?
C'est les a priori dont on a parlé, c'est-à-dire les crises les plus visibles, ce qui représente une minorité de crises, c'est les crises généralisées qui font peur. Donc les gens pensent que les gens sont fous, ils sont possédés, donc ça déjà, ça donne une image, voilà. Et puis après, c'est comme dans beaucoup de sujets, c'est l'ignorance qui fait imaginer le pire. Donc ne sachant pas, les gens pensent forcément à mal, pire, à s'écarter, à ne pas comprendre. Donc c'est tout l'intérêt de régulièrement de donner des informations et vous fréquentez sans doute des personnes épileptiques sans le savoir, parce que effectivement les personnes souffrant d'épilepsie ont peur aussi de cette stigmatisation, donc n'osent pas en parler, d'autant plus que si ils gèrent bien leur maladie, ils veulent pas trop en parler, quoi, pour certains. Et alors le travail, c'est encore autre chose.
Donc je vous propose pour finir, parce qu'on est à court de temps, comme d'habitude, donc on disait que la maladie est fortement stigmatisée, je vous propose de vous donner quelques idées reçues, peut-être que vous me donniez une réaction, voilà, courte en quelques mots. Donc une personne épileptique peut mener une vie normale, c'est ce que vous disiez.
Oui.
Voilà, tout à fait. Une femme épileptique peut avoir des enfants.
Absolument, mais ça. Alors le bémol, c'est qu'il faut le préparer, hein, et pas arriver après coup, une fois qu'on a 3 mois de grossesse. Une grossesse chez une personne épileptique, il faut en parler avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir le moins de crises possible, le moins de médicaments possible par rapport au risque médicamenteux. Donc c'est important de le préparer.
D'accord. Et puis une personne épileptique n'est pas du tout plus violente qu'une personne non épileptique.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que ça ne va pas être une personne particulièrement agressive. On peut avoir, par exemple, cette
non, image. Non, pas du tout. C'est pas par rapport à la maladie. Il y a certains médicaments, mais ça, c'est le travail du neurologue, du patient, etc., qui peuvent, parce que c'est des médicaments qui agissent sur le système nerveux central, donc peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent être soit de type dépressif, soit d'irritabilité. Mais ça, on connaît bien ça, on suit bien ça, et on cherche évidemment à éviter. Mais l'épilepsie en elle-même n'a pas de raison de rendre quelqu'un plus agressif. Dans la période où il fait sa crise, hein, ben, c'est vrai qu'il n'est pas conscient. Donc il ne peut pas maîtriser ça, et ça peut paraître pour de la violence. Quand on secoue, il y a ces fameuses convulsions, hein, on peut prendre ça pour de la violence, alors que ce n'est pas de la violence.
Et la dernière, qui moi m'a étonnée, tout le monde peut faire une crise d'épilepsie. En fait, ce n'est pas obligatoirement une crise épileptique et ce n'est pas obligatoirement le signe d'une épilepsie.
Absolument. Bon, la différence, c'est que dans l'épilepsie, il y a le symptôme et la maladie. Le symptôme, c'est une crise. On peut tous faire autour de la table une crise d'épilepsie si on abuse de son cerveau. Si vous ne dormez pas pendant 3 jours, si vous buvez de l'alcool, etc., vous allez faire une crise d'épilepsie. C'est un signe que le cerveau dit ça ne va pas là. Donc il va faire une crise. Après, pour parler d'épilepsie maladie, il faut une répétition des crises sans facteurs environnementaux évidents. Et là, on est dans l'épilepsie maladie.
D'accord, très bien.
Moi, je me demandais pourquoi vous avez choisi cette spécialité, l'épilepsie personnellement.
L'épilepsie, voilà, c'était un processus plus long. Hein. C'est après, premièrement, la médecine, deuxièmement, la neurologie. Après, moi, j'étais parti, donc la neurologie, donc on aime bien comprendre le fonctionnement du cerveau. Et après, bah, c'est le cursus qui fait qu'on fait des choix. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que justement, il y a cette vision aussi globale de cette maladie, comme dans beaucoup de maladies neurologiques. Et puis aussi une maladie pleine d'espoir, avec des progrès thérapeutiques et des progrès d'environnement. À ce sujet, je voulais dire un petit mot sur l'établissement où vous avez vu un dossier de presse un peu de la Ligue française contre l'épilepsie, donc la Société Savante et l'Épilepsie France. On fait de la recherche aussi à la TEP. Hein. Donc
oui, il y a beaucoup d'innovations.
Voilà. Donc on a une unité de recherche clinique, hein, une URC depuis 4 ans environ, où on travaille sur l'amélioration de la qualité de vie. Hein. On ne va pas faire de la recherche fondamentale comme dans des CHU, etc., mais surtout sur des outils, des apports, etc. Et là, actuellement, on travaille sur un outil qui s'appelle Detect TEP, qui veut aider à essayer de prévenir les crises grâce à un enregistrement du rythme cardiaque qui est plus facile à enregistrer que le G, pour essayer d'aider les patients au quotidien, de pouvoir anticiper la survenue du crise quand ils ne sentent pas venir la crise et donc quand ils ne peuvent pas se protéger. Donc on a plein de sujets, on travaille aussi sur les chiens et l'épilepsie, on travaille sur la qualité de vie, sur l'activité physique adaptée, on travaille sur plein de domaines, on a des doctorants qui interviennent chez nous, donc on s'est ouvert sur beaucoup de choses, donc l'établissement, la TEP est aussi un établissement qui fait de la formation, qui fait de la recherche et qui veut avoir un peu toutes les palettes autour de l'épilepsie.
Très bien, et bien merci beaucoup docteur Jérôme Petit d'avoir pris le temps de venir nous parler.
Je vous en prie, merci à vous.
Au programme de ce mardi, un peu d'art, vous avez sûrement dû l'apercevoir mardi dernier, une sculpture de 3 mètres de haut est apparue à Valence, l'œuvre est valentinoise. L'œuvre est valentinoise, donc, produite par Serge Landois, manieur de métal, et attention, car elle se nomme À main levée. Si vous souhaitez aller y jeter un coup d'œil, par curiosité ou par envie, la sculpture se trouve donc devant le nouveau palais des congrès Jacques Chirac, à Valence. Je tiens à préciser que l'Arthur... je vais y arriver.
Décidément.
Je tiens à préciser que l'artiste monte ses sculptures sans idée préconçue ni dessin préparatoire.
Et un peu de musique aussi. L'Accordo organise la 4e édition de Viral Battle. Il ne reste que quelques jours aux rappeuses et rappeurs du territoire pour envoyer leur freestyle sur la page Instagram de Viral Battle avant le 18 février. 8 finalistes seront choisis par un jury professionnel et pourront se produire sur la scène de l'Accordo le 5 mars pour une journée dédiée aux musiques urbaines. Plus d'informations, on vous invite à vous rendre directement sur le site de l'association lacordo.com.
Toujours proche de la LPO, l'association organise une rencontre en visioconférence pour maintenir une dynamique d'échange et de partage sur la thématique des 4 espèces de vautours. Le format de cette conférence avait jusqu'à présent réussi à rassembler 120 participants pendant 3 soirées et avait été l'occasion d'ouvrir cet événement justement à un public plus large. La LPO donc vous donne donc rendez-vous dans un webinaire ce soir à partir de 17h où vous pourrez donc vous inscrire par mail à vautour avec un S, attention, @lpo.fr en pensant à bien donner vos noms et prénoms et potentielles organisations. Mais encore une petite balade collective afin de suivre la reproduction et de connaître la répartition de l'espèce du Grand-Duc sur le département, mais aussi d'éviter toute menace. La LPO organise une prospection demain de 17h à 19h. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, vous pouvez contacter la LPO par mail à lea.bail.
Oui, il y a un T en trop, je crois. Hein. Normalement,
oui,
c'était...
Bail, avec un Y, @lpo.fr.
Et le programme de la semaine sera également rythmé par des webinaires variés et divers sur l'épilepsie. Si hier, le thème était amour et épilepsie, aujourd'hui, ce sera épilepsie et filière de soins. Demain, épilepsie, comment faire à l'école. Jeudi 17, avoir une épilepsie et travailler quelles questions, quelles réponses. Et vendredi 18, de l'épilepsie au cerveau, comment les connaissances sur l'épilepsie ont permis de mieux connaître le fonctionnement du cerveau. L'inscription Ce fait en ligne, vous trouverez donc plus d'infos effectivement sur les événements en lien avec des formes plus rares d'épilepsie sur www.epilepsie-du6info.fr.
Et puis sinon, sachez qu'il y a un atelier ciné à modeler à Valence. C'est ce soir de 18h à 20h. Il aura lieu aussi demain, donc le 17 février, et puis jeudi 3 mars également. L'atelier ciné à modeler est mené par Clisia Santorino, qui est membre du collectif Cinex, l'atelier du cinéma excentrique, et Joyce Lenné du laboratoire argentique atelier MTK. Il s'adresse à la génération qui ne connaît, qui veut découvrir le support argentique. Il s'agira de comprendre l'histoire du cinéma en touchant l'image, comprendre comment capter les mouvements et concevoir et même faire un cinéma de bricolage. Les trois séances sont complémentaires, il est donc important d'assister aux trois. Alors je vous rappelle les dates, donc ça commence ce soir et puis sinon ce sera aussi demain et puis le jeudi 3 mars de 18h à 20h. C'est gratuit sur réservation auprès de la Maison de l'étudiant à Valence. Et nous sommes maintenant avec notre nouvelle invitée, Bibiche Capia, présidente de l'association Imani, qui a tenu son assemblée générale ce samedi. Bonjour Bibiche.
Bonjour.
Comment ça va ?
Oui, ça va, tout va bien, merci.
Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette association, à l'association Imani ?
Alors, l'association Imani est une association humanitaire qui vient en aide aux populations féminines en situation de précarité. Et nous travaillons sur quatre axes d'intervention, la santé, l'éducation, l'environnement et la culture.
Et donc, vous parlez de personnes en précarité. Comment est-ce que vous ciblez ces personnes précisément ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons une vision, peut-être une vision particulière au niveau de Mani en ce qui concerne la précarité. Mmh. La précarité, c'est pas seulement sur le plan matériel, financier, mais la précarité, c'est aussi un état d'esprit.
C'est-à-dire...
Donc, nous prenons la précarité sous cette forme-là pour nous permettre d'atteindre toutes les couches féminines.
Quand vous
Parce
dites...
que, voilà, donc nous essayons d'aider les personnes, on va parler des femmes, qui ont besoin, on va dire, d'un coup de pouce pour se relever et continuer. Nous aidons également les femmes qui sont en situation de précarité, donc là, nous parlons vraiment de la situation financière et matérielle. Donc, nous soutenons les femmes qui sont dans des pays en voie de développement, qui sont dans le besoin, et aussi toutes les femmes en général, qui ont non seulement besoin matériel, mais qui peuvent aussi avoir besoin, on va dire, d'un soutien moral, des conseils, des témoignages des autres femmes qui ont émergé, pour pouvoir avancer et se développer, et également s'outiller. Voilà.
Quand j'entends la précarité, c'est un état d'esprit, ça veut dire quoi concrètement dans l'esprit de ces femmes ? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous arrivez à les trouver, du coup, si c'est une question d'état d'esprit aussi ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que nous participons déjà, que nous avons l'habitude de travailler en synergie avec d'autres associations qui ont aussi comme cible les femmes. Et nous essayons, au travers des différentes, on va dire, différentes actions que nous avons mises en place, on est beaucoup plus sur l'événementiel. Donc, nous proposons des activités comme des tables rondes, de partage des témoignages des personnes en passant par des interviews. On est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc on partage vraiment tout ce que nous faisons au niveau de réseaux sociaux. Alors, en parlant de l'état d'esprit, en parlant de la précarité, quand on dit un état d'esprit, parce que en regardant ce qui peut se passer dans la vie de chacun, voilà, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément besoin de matériel pour avancer. Ils n'ont peut-être pas la confiance en soi. Et ça demande justement d'entendre les autres, de connaître les expériences des autres pour aussi qu'il y ait un déclic et avancer. Donc on essaie vraiment de travailler sur ce plan-là, autour de nous, de bouche à oreille. Nous partageons des informations dans ce sens-là et au travers aussi notre réseau. Nous participons au travail que font les autres associations qui ont aussi comme cible la femme. Et lors de ces rencontres, nous contactons les personnes de cette façon-là.
Donc c'est redonner à la fois une stabilité financière aux femmes et aussi redonner une confiance en elles pour leur permettre de mieux se réaliser dans leur vie.
Exactement.
Et donc, vous parliez de plusieurs thématiques. Est-ce que ce serait possible de nous donner quelques exemples concrets de projets pour qu'on arrive mieux à imaginer un peu ce que l'association met en place ?
Alors, nous avons, sur le plan culturel, donc on va parler de l'axe culture, nous avons des événements culturels que nous avons mis en place qui se réalisent carrément tout au long de l'année. Alors, depuis 2020, on a pu être un peu, enfin, pas freiné, mais on a un peu pris de recul en regardant la situation sanitaire.
Oui.
Et donc, nous avons un défilé de mode ethnique qu'on appelle Ethnic Valence Fashion Day.
Génial.
Cet événement a pour objectif de promouvoir les différentes cultures qu'il y a par le vêtement traditionnel. Et généralement, c'est la femme, ce sont les femmes qui défilent.
Waouh, c'est un beau projet. Il y a déjà une date pour 2022 ?
Alors, pour 2022, voilà, donc nous allons, vu que la situation sanitaire a un peu évolué, nous allons, au mois de mars, nous allons célébrer le mois de la femme avec notre défilé de mode qui se fera à la MPT du Petit Charan. Ça sera le 12 mars de 19h30 à 22h. Et là, nous allons recevoir deux femmes qui sont entrepreneuses dans le domaine de la mode, qui seront là aussi justement pour partager leur expérience, pour permettre aussi aux femmes qui seront là, aux femmes qui nous suivront de loin ou de près, de tirer aussi de leçons et de voir aussi que dans la vie, on a la possibilité d'avancer et aussi de se former ou de se donner les moyens d'avancer. Donc ça fait partie de ce que nous avons cette année. Et encore, nous avons l'exposition artistique qu'on appelle Val Art. C'est aussi dans le même esprit de promouvoir les différentes cultures, mais par l'art. Donc, on a plusieurs artistes peintres qui participent à cet événement. Et cette année, nous n'avons pas encore décidé de la date. Lorsque nous serons en contact avec ces artistes, à ce moment-là, nous discuterons de la date. Ensuite, nous avons un buffet culturel qu'on appelle Saveur Monde. Ce buffet est aussi dans le même esprit de promouvoir les différentes cultures. Donc, on présente plusieurs, on va dire, plats de différents horizons pour permettre aux gens de vivre ensemble, de partager la culture des autres et de mieux connaître l'autre.
Ah,
donc voilà un peu sur le plan culturel événementiel ce que nous avons comme événement cette année à mettre en place.
Pas de date encore pour ce Saveur Monde, pour ce buffet culturel ?
Alors généralement le buffet culturel on le fait au mois de septembre.
Okay.
Donc là encore nous allons attendre.
Je comprends.
Voir quelles sont les directives que nous aurons par rapport à la situation sanitaire. Donc voilà.
Et sur les autres thématiques, vous avez aussi des projets donc en lien avec l'environnement et d'autres sujets ?
Voilà. Alors, cette année, nous avons sur le plan éducation, nous avons un projet avec les soutenir une association qu'on appelle Toutes les filles à l'école.
Oui.
Du Cambodge. Donc, c'est une association qui aide les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont en situation de précarité, en leur offrant ce cursus scolaire, en leur permettant aussi de se former, d'avancer, de trouver des moyens de se développer, et aussi travailler pour participer au développement des sociétés. Mmh. Donc nous allons appuyer cette association en participant par une collecte que nous ferons. Donc la date sera décidée cet après-midi. Je suis en réunion avec l'association, avec les membres de l'association, pour justement étudier la question, voir comment nous, Imani, nous allons pouvoir participer à leur action.
Okay.
Donc on n'a pas encore déterminé la date, mais je pense que lors du défilé du 12 mars, nous aurons déjà des informations à communiquer.
Parfait. Environnement ?
Alors, en ce qui concerne l'environnement, nous avons un projet qui est encore en cours de traitement, donc je ne saurais pas vraiment au jour d'aujourd'hui en parler en long et en large. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un projet, donc on est plus sur le recyclage, mais c'est un projet qui se fera avec un pays en Afrique. Donc là encore, le projet est en cours de traitement. Je ne pourrai pas donner plus d'informations vu que on n'a pas encore arrêté la date et aussi on va parler du schéma de l'organisation de ce projet.
On le partagera le moment venu sur nos ondes.
Voilà.
Et peut-être il nous reste une minute, peut-être Bibiche. Comment est-ce qu'on peut vous suivre un peu ce qui se passe auprès de l'association sur les réseaux sociaux et où vous trouvez et quels sont vos besoins si nos auditeurs et auditrices qui écoutent ont envie de vous aider, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire?
Alors, Imani, notre siège, c'est 74 route de Montpellier, donc nous sommes à la Maison de la Vie Associative. Et vous pouvez nous écrire sur imani.asso2017@gmail.com. Notre téléphone, c'est le 06 58 83 06 99. Nous sommes sur Facebook, Instagram et aussi sur LinkedIn. Donc vous pouvez à ce moment-là suivre tout ce que nous faisons en termes d'action. Et nous parlons aussi de nos projets. Donc, ceux qui veulent participer à nos actions, qui veulent nous aider, vous avez nos contacts et n'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre mur Facebook, donc Association Imani ou Imani France.
C'est noté. Et comment vous aider?
Alors, nous aider, c'est vraiment lorsque nous avons des projets, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à contribuer à ce que nous faisons. Donc voilà, c'est beaucoup plus sur le plan, voir par exemple le projet qu'on aura toutes les filles à l'école, ça serait un projet qui aura vraiment besoin d'aide financière.
Donc participer à la collecte et à l'expo, au Fashion Day et venir manger ensemble au buffet culturel.
Au buffet culturel, voilà. Et aussi, venez découvrir un peu l'art, savourer l'art de façon mondiale, on va dire comme ça.
Et bien, c'est un beau programme. Merci beaucoup, Bibiche, d'avoir été parmi nous.
Merci à vous. Merci vraiment pour cette attention particulière que vous avez accordée à notre association. Et nous espérons que nous aurons encore le temps de partager nos actions dans les jours à venir.
On l'espère aussi. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
C'est la fin de cette locale, il est presque 13h. Et si vous aussi, vous voulez passer dans la locale, présenter votre association, votre structure ou ce que vous faites sur le territoire, contactez-nous agenda@radioblv.com et restez sur notre antenne, le 93.6. À 13h, vous aurez la chance d'écouter le Grand Mag, le magazine du grand n'importe quoi, un magazine décalé qui est créé par nos vaches folles maison. Mais c'est que du bonheur et puis ça nous fait rire, ce qui nous fait beaucoup de bien en ce moment. À 17h, vous réécouterez l'émission de 11h et quelques. À 18h, rediffusion de cette locale. À 19h, vous retrouvez les musiques de Sac et de Cordes. Et puis, pour finir la journée, 20h15, Chansomania, l'émission de chansons francophones.